Je suis honoré de vous rencontrer.
Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme?
Ça vous dérange pas que... J'essaie.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami.
Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Tête à Tête avec des créateurs. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. On va bientôt passer la barre des 500 téléchargements sur le podcast. Donc un grand merci à tous. Bientôt, je sortirai une nouvelle de la série sur Leviosa Media, un podcast d'un nouveau genre avec un format un peu plus court, mais je vous en dirai un peu plus tard dans les prochaines semaines quand j'aurai vraiment commencé à enregistrer plusieurs épisodes. Et pour revenir à tête avec des créateurs, dans cet épisode, on reçoit Cyril Ferré qui a été le cofondateur de boîtes à succès telles que Attractive World, Shaper. Aujourd'hui, ils fondent Bpitch et il va nous en parler un peu dans cet épisode. Ce qui est intéressant avec Cyril, c'est que c'est un entrepreneur qui a vraiment une vision très axée sur les relations interpersonnelles. Il voit vraiment les entreprises comme un organisme vivant qu'il faut aider à croître et à progresser. Il est vraiment très orienté croissance, écoute et bien-être de ses collaborateurs aussi. Vous allez voir, ça transparaît vraiment dans ses propos et c'est hyper intéressant. Donc bref, je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Bonjour Cyril.
Bonjour Romain.
Comment vas-tu ?
Bien, il fait beau, on est en fin de confinement, tout va bien. Enfin, tout ira mieux dans les mois à venir, mais c'est bien pas mal.
Ouais, on est même bien en début de confinement, bien entamé de ce qu'on peut voir aux infos. Je ne sais pas de ton côté si toi, tu oses encore sortir un peu plus. Moi, j'ai encore un peu de mal à sortir, à mettre les pieds dehors, mais je le fais de plus en plus, mais toujours avec prudence.
Alors, de mon côté, j'avais prévu plutôt vers mi-juin, et j'avoue que les chiffres et les indicateurs sont plutôt bons. Je suis étonné, et je m'autorise déjà dès maintenant à repratiquer un peu de sport à l'extérieur, donc du vélo et de la marche, et d'autres sports, et c'est plutôt sympathique.
Ouais, t'as bien raison. Donc Cyril, tu es là un peu pour nous parler de ton parcours et de ton expérience en tant qu'entrepreneur. Alors comme je le disais en introduction de ce podcast, tu as un parcours hyper riche. Tu as cofondé Attractive World, Shaper, qui sont des boîtes que beaucoup de gens connaissent. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner sur Internet. Google est votre ami et vous pourrez un peu voir tout ce que vous pouvez trouver sur ces boîtes qui sont vraiment innovantes dans leur domaine. Et aujourd'hui, tu crées et tu cofondes Bpitch. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est ton idée avec cette boîte et qu'est-ce qu'elle fait ?
Alors, l'idée est assez simple, c'est de permettre à chacun d'exprimer de façon structurée son projet et ses besoins via une interview en vidéo. Donc ça est une application qui va poser les questions, vous enregistrer, combiner l'ensemble de façon homogène, de façon à faire une vidéo que vous pourrez avoir et diffuser sur notre propre réseau Bpitch, mais aussi en externe. Alors, le principe de la vidéo, c'est de montrer réellement l'implication de la personne dans son projet. Pourquoi ? Tout simplement, moi je suis freelance, je suis une société, je veux travailler avec des gens qui sont impliqués dans leur projet pour aimer parce que j'aime travailler et j'aime travailler sur ce que je fais. Et je veux que les personnes avec qui je travaille soient aussi impliquées. Là en vidéo, on a directement un feedback, il n'y a pas de filtre, c'est pas une vidéo corporate toute lissée, c'est pas une pub Menen ou une pub de soda qui aura été travaillée pendant un mois, voilà. Donc, on a un feedback direct et on peut regarder en vidéo ça rapidement et planifier un rendez-vous ou envoyer un message ou contacter la personne assez rapidement. Donc, on n'est plus obligé de se dire, on va attendre une semaine, quel est ton agenda ? Mon agenda, on se voit, c'est une heure dans un restaurant ou dans un café, on discute une première fois et après, malheureusement, parfois, il n'y a pas de « et après ». Et donc, le but aussi de Bpitch, c'est de renforcer ça et de mettre en place des petits outils, tout simple, du CRM, des workflows, des états sur les projets et les contacts, de façon à réellement passer du mode « j'ai pris contact » à « je fais un projet réel avec la personne ».
Du coup, tu te situes plus sur du recrutement ou du co-founding, des trucs comme ça, ça s'adresse plutôt à qui ? À des personnes qui veulent recruter ou des personnes qui veulent s'associer ?
Alors, pour l'instant, il faut éviter le recrutement parce que c'est un marché qui est absolument énorme. Il est très sympathique. Il est confortable, ce marché. Mais il a la problématique de manger toutes les autres interactions qu'il pourrait y avoir dans le même réseau. Donc, il faut un équilibre dans un réseau. Et aujourd'hui, on va plutôt avoir un réseau qui va être basé sur du sourcing, alors au sens anglais du terme. C'est-à-dire quelque chose de très simple. J'ai vraiment un projet, j'ai un besoin, et ce besoin, je vais essayer de le compléter ou de le résoudre par un candidat, mais aussi et surtout des freelances, une société de service, des conseils qui sont gratuits, des conseils qui peuvent être payants, et ce genre de choses. Donc c'est vraiment un écosystème avec des interactions, et bien évidemment, ces interactions, elles sont calquées sur la vie réelle, ce que l'on a autour de soi et ce dont on a besoin. Aujourd'hui, on n'est pas uniquement en train de rechercher pour sa société ou pour des projets, uniquement un candidat qui va apporter quelque chose de magique. Surtout qu'aujourd'hui, les candidats, le temps de recrutement, et en particulier pour les startups, on peut compter un mois et demi, 2 mois, 3 mois, s'il est déjà dans une autre société. Et ensuite, on va attendre de ce candidat qu'il soit miraculeux dans une société. Mais ça, c'est une prise de risque. Donc, on peut avoir cette opportunité via Bpinch, mais ce que je dis aussi, c'est qu'il faut répondre réellement à son besoin. Et son besoin, il est timé dans le temps. Donc, si on peut y répondre maintenant, réduire les risques, c'est bien. C'est une bonne chose. Et donc là, on va pouvoir rentrer en contact avec beaucoup de personnes de façon assez simple, qui vont connaître rapidement le projet sans que l'on ait à se répéter et qui vont venir vers vous ou que vous, pour lesquels vous allez aller vers eux directement. Beaucoup plus simple, moins de friction. Et c'est bien.
Ouais, c'est très important. J'ai eu la mauvaise expérience d'avoir... À une époque, j'avais une idée que je voulais lancer et de m'associer à une... Enfin, je n'ai pas eu trop le temps de m'associer, mais j'avais commencé à travailler avec une personne et je me suis rendu compte de 2 semaines que ça allait pas du tout, que ça collait pas du tout. Et c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir en fait présenter son idée en toute transparence et d'être hyper clair et d'être centré en plus, et de se centrer sur l'humain, quoi. Sur l'humain, sur le feeling qu'on a, et ouais, de ce que je comprends, c'est ce que ça te permet de faire, de ce que tu m'en avais expliqué aussi, c'est vraiment d'avoir ce côté ressenti qui est très important, c'est ça ?
Oui, alors on parle de maintenant, puisqu'on donne un mot à toutes les choses, donc on va parler de soft skills, c'est-à-dire les compétences humaines d'une personne. Donc l'idée, c'est d'avoir les soft skills en vidéo et les hard skills dans le profil de la personne. C'est aujourd'hui, on peut trouver des CV vidéo ou autres. Alors, si on prend le cas typique de quelqu'un qui travaille sur la tech, il va exposer en vidéo toutes les technologies. Sauf que c'est une liste qui est assez longue, assez ennuyeuse. Au bout de 2 minutes de vidéo, ça peut être très très vite, on décroche, c'est pas possible. Donc, gardons le côté humain sur la vidéo et l'échange comme si on était à côté de la personne. Ça sera beaucoup plus simple aussi.
D'accord. Mais du coup, c'est vrai que je constate un... Je viens de faire le parallèle à l'instant, mais c'est vrai qu'il y a un lien un peu entre tous les projets sur lesquels tu as travaillé. C'est systématiquement la mise en relation de personnes. C'est quelque chose qui tient à cœur en particulier, qui te motive, qui te pousse.
Oui, je confirme. C'est la relation entre toutes les sociétés. Donc, j'ai travaillé en R&D et conduit des projets de R&D de longues années sur le sujet qui est l'augmentation des interactions à l'intérieur d'un réseau. Donc voilà, c'est un nom un peu pompeux, mais en gros, ça veut dire qu'il faut prendre conscience des interactions qui sont nécessaires. On ne va pas obligatoirement sur un réseau, que ce soit LinkedIn ou d'autres réseaux qui peuvent exister, pour matcher avec quelqu'un ou pour rentrer en contact avec quelqu'un qui vous ressemble. Mais on a besoin parfois de complémentarité, de quelqu'un qui soit légèrement éloigné pour nous compléter. Et ça, c'est très important. Bpitch, je ne l'ai pas construit tout seul, j'ai un cofondateur et il est différent de moi. C'est-à-dire qu'il va m'équilibrer sur énormément de choix. Donc l'idée aussi de créer une société, c'est de s'équilibrer et de s'associer avec d'autres personnes. Et ça, c'est très important. Normalement, aujourd'hui, on a énormément de problèmes. Enfin, c'est quasiment impossible de créer une société en solo. C'est trop d'énergie. Il faut avoir un recul nécessaire sur ses propres idées, les remettre en question assez souvent, donc pas tout le temps, mais assez souvent et principalement au début, il faut les structurer, et ça c'est assez difficile. Et ce dont je n'ai pas parlé, et tu vas comprendre la petite astuce, c'est que Bpitch lui-même est un réseau, C'est-à-dire que pour constituer la société, je fais appel à des personnes en externe, alors des freelances, des sociétés de services, et je demande aussi beaucoup de conseils. Donc c'est-à-dire que le réseau que je veux mettre en place, je l'utilise moi-même et j'ai la même démarche pour construire BluePitch. Si j'ai besoin de quelqu'un pendant quelques temps, je vais lui demander une mission, je vais voir avec lui. Alors, avec le confinement, on fait des visios. Avant, je faisais quand même des rendez-vous plus classiques. Mais un premier contact en visio, c'est bien. Ça a éclairci les choses. On perd un petit peu moins de temps. Même si dans toutes les relations, ce n'est pas obligatoirement une perte de temps, c'est une connaissance. Même si on se dit, non, je ne travaillerai vraiment pas avec cette personne. Et bah, de se dire qu'on ne va pas travailler avec cette personne, c'est déjà en savoir un peu plus. Donc, ce n'est pas une perte. Mais c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rapide si on peut travailler plus rapidement avec plus de monde et assez directement. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance sur BluePitch. J'ai rencontré des personnes absolument extra avec qui on a réellement eu une complémentarité réelle et c'est parfait.
Ah, mais c'est... J'aime beaucoup ce que tu dis là. Ça rejoint un peu cette idée de boîte vivante. Je m'explique un peu, c'est... J'ai souvent cette comparaison pour dire il faudrait qu'on voit plus les entreprises comme des organismes vivants plutôt que comme des machines, c'est-à-dire des organismes qui vont se multiplier cellulairement, qui vont vivre, qui vont s'étendre, qui vont chercher à croître de façon organique et pas à fonctionner comme des rouages figés et parfaitement huilés, et dès que le moindre grain de sable vient se mettre dans la machine, ça casse. Et c'est un peu, j'ai l'impression, ce que tu décris là. C'est-à-dire que l'idée de quelque chose de vivant et qui vient se nourrir un peu de ce qu'il a autour de lui, de son environnement, quoi.
Alors, pour la petite histoire, la première des choses que j'ai fait très très rapidement dans l'entreprise pour essayer de la structurer sur le long terme, puisque je fais généralement des entreprises qui durent dans le temps, qui sont très longues à exprimer tout leur potentiel, c'est de fixer des valeurs communes. C'est-à-dire que plutôt que de se dire on va fixer toute une série de règles au fur et à mesure des années ou des mois, des règles que plus personne ne va comprendre ou lire même, c'est plutôt de se fixer des valeurs qui soient simples. Alors, ce n'est pas des mots-clés, les valeurs. Si par exemple, on dit bienveillance, waouh, c'est génial, mais ça exprime tellement de choses pour tellement de personnes.
Ça ne veut rien dire, quoi.
Voilà. Et maintenant, je me dirais même, je me méfie des personnes qui disent à tout bout de champ, on est bienveillant. Non. L'idée de fixer des valeurs, et j'ai fait des petits ateliers pour ça, c'est vraiment de les travailler dans des phrases et de savoir à quel moment on est bienveillant et pourquoi. Alors, bienveillant, ce n'est pas obligatoirement le bon terme. Aujourd'hui, j'évite de l'utiliser correctement, enfin, ou complètement. Ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est d'autres mots-clés comme la récompense sur le travail ou autre. Mais il faut aussi le mettre dans une situation, c'est-à-dire à quel moment on va récompenser et comment on va récompenser les gens sur le travail fourni. Donc ça veut dire que, je te donne une idée des valeurs qu'on a fixées dès le départ au niveau de la société, c'est-à-dire qu'on va récompenser les personnes par rapport à leur travail. Alors c'est pas on va leur donner des millions, non, parce que déjà on les a pas aujourd'hui. C'est plutôt dire, on va vous permettre de vous former. On va vous permettre d'augmenter vos compétences. Et pour ça, on va vous mettre avec des personnes sur des projets, des personnes qui sont plus compétentes ou sur des sujets que vous voulez travailler. Et vous allez augmenter votre propre compétence. Voilà, ça c'est aussi une récompense du travail. C'est-à-dire qu'on va vous permettre de faire les choses que vous aimez. Bon, il y a d'autres petites choses qu'on a inclus comme des team building et des sorties et des choses assez classiques qui sont pas obligatoires mais qui sont fun et chacun peut proposer ce qu'il veut. Et plus c'est différent, mieux c'est.
Ah mais c'est top. Et du coup, comment tu présentes ça Alors non, c'est peut-être pas, je débarque peut-être pas la question de la bonne façon. Quand t'as un nouvel arrivant dans ton projet, comment tu lui présentes un peu ce fonctionnement autour des valeurs et comment tu t'assures qu'il y adhère?
Alors, personne ne va adhérer tout de suite aux valeurs de l'entreprise. Ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on exprime les valeurs d'une entreprise que d'un seul coup, la personne se dit « waouh, c'est génial ». Puis surtout, si on le fait, elle ne va pas comprendre le contexte, le pourquoi, l'application ou autre. Donc, la chose est basique. C'est on montre les valeurs de l'entreprise par un exemple. C'est-à-dire qu'on va faire des actions et ces actions, à l'intérieur de l'entreprise, on doit pouvoir les prouver par des KPI. Si on dit on donne des formations aux gens, que ce soit des formations en ligne ou autre, eh ben, il faut pouvoir prouver combien de personnes, qui a été touché, est-ce que des personnes veulent ou veulent pas, ok, et surtout, est-ce que ça leur a permis de valider un diplôme, une formation en ligne, des valeurs sur AWS Cloud, par exemple, ce genre de choses. Donc ça, c'est bien de le dire et c'est encore mieux de pouvoir le prouver. Et donc, les fournir et communiquer là-dessus, c'est aussi une bonne chose.
Et est-ce que tu appliques ce système de valeurs aussi à l'objectif de l'entreprise en dehors des salariés, je veux dire sur le produit et sur le client, et etc.
Alors, les valeurs de l'entreprise doivent s'exprimer en interne et aussi en externe. C'est très très important, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Un exemple que je donne parfois, c'est est-ce que vos valeurs d'entreprise, c'est de faire de l'argent ou est-ce que au contraire, c'est d'être orienté sur le client ? Donc, il n'y a pas de jugement de valeur. Ça veut dire, c'est deux choses qui peuvent être faites pour X ou Y raison. Il n'y a aucun souci là-dessus. La différence, c'est que si tu l'appliques, l'exemple le plus concret, c'est quelqu'un qui, dans une application, aurait cliqué sur un abonnement par erreur, téléphone au support le lundi, et là, on lui répond en fonction des valeurs de l'entreprise. Donc, plutôt argent, non, vous avez fait l'erreur, ou non, suivez le process, envoyez-nous une lettre recommandée, etc., etc. S'il n'y a pas de valeur dans l'entreprise, mais des règles, les règles elles sont parfois un peu floues. Donc, s'il retéléphone le jeudi, peut-être que la personne au support qu'il aura eu le jeudi va lui dire « oui, on vous rembourse ». Et là, il y a une dissonance entre deux communications. Alors que si tu as des valeurs qui sont « on est orienté vers le client », il a le droit à l'erreur, en interne comme en externe, on le rembourse et on ne discute pas trop. Par contre, si à l'inverse, tu te dis aujourd'hui, l'autre objectif de société et nos valeurs, c'est de faire de l'argent pour grossir, on va le refuser et on va le refuser le lundi et le jeudi. Et là, il n'y a pas de dissonance et c'est cohérent. On va pas
le rembourser. Ce qui est le cas dans beaucoup trop d'entreprises, je trouve, aujourd'hui. Okay, la valeur première, c'est l'argent. Alors que je comprends que ça doit être une préoccupation. D'ailleurs, on en parlait dans l'épisode avec Sarah Follador que tu connais.
Oui.
On en parlait sur le fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, la valeur première, c'était l'argent. Et ça ne devrait pas l'être, même si c'est une préoccupation très importante. Ça, j'en ai conscience et on en a tous conscience, je pense. Parce que sinon, la boîte ferme et ça a d'autres conséquences sur tes salariés, etc. Mais il faut réussir à trouver l'équilibre quoi, et d'autres valeurs que l'argent. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus.
Alors attention, je n'ai pas dit que l'argent ne devait pas être une valeur.
Moi non plus.
Une valeur exprimée, mais elle ne doit pas être la seule. Je veux dire...
Exactement.
Voilà.
C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut trouver d'autres que l'argent, parce que c'est vrai que c'est trop souvent l'argent... Et voilà.
Exactement. Donc, comme on en discutait, je viens de réouvrir le document en fait, que je fournis en onboarding aux stagiaires et aux personnes qui arrivent ou qui travaillent sur le projet. Je vais te les énoncer rapidement. Donc, tu vas me dire ce que tu veux ou poser des questions. La première, c'était la reconnaissance sur le travail. Donc, j'en ai déjà parlé. La deuxième, c'est l'efficacité et le pragmatisme. La troisième, c'est le droit à l'erreur en interne comme en externe. Donc, ça veut dire que les personnes en externe doivent avoir un droit à l'erreur. Alors, le droit à l'erreur, il est, par exemple, si tu prends contact avec quelqu'un ou si tu supprimes un message, tu dois pouvoir le restaurer à un moment donné. Le message ou le contact n'est pas supprimé à vie et tu dois pouvoir, si tu as fait une petite erreur sur une interface, revenir en arrière. Ça a l'air d'être tout simple, mais ça ajoute beaucoup de flexibilité aux choses. La quatrième, c'est la beauté et l'attrait des interfaces. C'est-à-dire qu'une application doit être jolie, pratique, aussi bien que fonctionnelle pour être utilisée. Et la dernière, et plus située sur l'interne, c'est l'entraide et être proactif sur les problèmes. Alors proactif, c'est tout simplement un constat sur les sociétés. Parfois, quelqu'un a un problème et va voir son manager et dit « j'ai un problème là-dessus ». c'est génial. Mais voilà, ce que j'aimerais, c'est que les gens viennent, il y a un problème là-dessus, on a deux ou trois possibilités pour le corriger. Il faut qu'on en discute. Donc le discours n'est pas le même, et il y en a un qui est un peu plus proactif que l'autre, et j'aimerais bien essayer de transformer. Alors, très 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 important, les valeurs d'une société, et ce que j'essaye de communiquer aux sociétés que je suis, puisque je suis quelques sociétés aujourd'hui, c'est de ne pas se dire « mes valeurs sont un filtre au recrutement ». Non, les valeurs, c'est un objectif à atteindre un jour, mais ce n'est pas un filtre. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas toutes ses valeurs que je ne vais pas le prendre dans la société. Il ne faut pas avoir des clones dans une société. Il faut avoir des personnes normales. Ça. Voilà.
Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça me rappelle une vieille expérience que j'ai eue en start-up où lors d'une... comment ça s'appelle ? Lors d'un séminaire, pardon. Est venu sur la table la question du recrutement et a été annoncé que dorénavant le recrutement se ferait par une RH. Tout le monde a hurlé parce que ouais, ils voulaient pas perdre la main sur le recrutement, ils voulaient pouvoir eux-mêmes recruter les personnes avec qui ils travaillaient. Et là, il y a une personne qui est intervenue pour calmer un peu tout le monde en disant. Qu'ils étaient bien gentils, mais que s'ils regardaient dans la salle, ils étaient que des petits blancs de 25 ans, enfants de cadre CSP+, et qu'il n'y avait aucune diversité dans l'entreprise. Ça a jeté un froid terrible sur le séminaire, comme tu peux l'imaginer. Mais c'était la triste réalité, et c'était une constatation qu'à plusieurs, on avait déjà fait dans l'entreprise et qui malheureusement était que trop vrai et qui, je pense, arrive dans beaucoup de startups parce que il y a un espèce d'entre-soi sur recrutement et qu'on a tendance, c'est un biais qui est inséré en nous, être humain, c'est d'aller vers ce qu'on connaît, du coup, de recruter. Donc c'est vrai que c'est du coup le recrutement en fait partie, quoi. Et c'est très difficile. De se sortir de ça au quotidien, quoi.
Alors, j'ai de la chance de ne pas avoir été éduqué là-dedans. J'ai toujours eu des équipes très, très mixtes en culture. J'adore. J'ai plusieurs nationalités sur les précédentes expériences. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes en Équateur, en Inde, en Asie. Des expatriés, des personnes qui sont issues de plusieurs... culture, et ben c'est génial. L'énorme avantage pour une société, c'est par exemple si aujourd'hui j'ai envie de traduire l'application en espéranto, je vais trouver quelqu'un. Ça a l'air tout bête. Si je veux plus simplement la traduire en espagnol, je demande avec une personne avec qui je travaille déjà et parle espagnol. Je veux le traduire en anglais, j'ai des natifs. Je veux le traduire en ukrainien, je peux trouver aussi. Et c'est génial. Et les différentes visions apportent un vrai plus aux produits et à la culture d'entreprise.
D'accord.
Pour moi, le mélange est essentiel et naturel. Et ce qui prime en premier, alors ça, ça a l'air tout bête de le dire aujourd'hui, mais ce qui prime en premier, c'est les qualités de la personne humaine et au niveau du travail. Les compétences, les formations, les acquis, l'expérience, c'est énorme. Donc j'ai vraiment, en tout cas au niveau de la tech, et je suis content d'avoir travaillé une bonne partie dans des environnements assez techniques, internet, formation, big data, etc., pour pouvoir me dire, mais il y a des profils qui sont absolument géniaux et ils sont avec une mixité énorme. Mais au début, je ne le vois pas, en fait. Enfin, je ne le vois pas, cette mixité. Je m'en suis rendu compte en invitant des personnes dans les entreprises ou en invitant des personnes dans nos travaux, parce que parfois, on change de langue dans des réunions ou ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là que je m'en aperçois. Je ne m'en étais pas vraiment aperçu avant.
Ouais, ok, je vois tout à fait. Non, ça prouve que ça existe et qu'il faut arrêter de se trouver des excuses, quoi. C'est souvent le cas de beaucoup de boîtes, c'est l'excuse de « ouais, mais on n'arrive pas à trouver les profils qu'il nous faut tout en alliant la diversité, etc. Alors qu'en fait, non, c'est juste que c'est un biais qui existe et qu'il ne voyait pas jusqu'à présent, quoi. Enfin bon.
Ça se fait naturellement, et il ne faut pas non plus dire notre objectif dans une entreprise, c'est la diversité.
Parce que si ouais, non, parce que sinon.
Non. Faut... Juste être ouvert, c'est bien.
C'est ça. Il faut le prendre en compte aussi, et il faut juste l'avoir dans un. Je pense qu'il faut l'avoir dans un coin de sa tête, c'est déjà bien, quoi. Mais après, Enfin bref, c'est un débat hyper large, mais c'est vrai que ça me fait penser, c'est pareil dans. On a l'inclusivité sur la façon de développer la tech. J'ai eu la chance de travailler avec des développeurs pour qui c'était un vrai sujet. Pour eux, ils étaient systématiquement, quand on parlait d'une nouvelle fonctionnalité, ils parlaient de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Et c'était quelque chose qui était inclus du coup dans le développement du produit autant que possible, mais ça aussi là, on fait pas assez d'efforts, je trouve, de façon globale là-dessus. Il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui s'élèvent pour parler et dire ce genre de choses, quoi. Enfin bon,
j'ai de la chance, du coup, j'ai pas besoin de parler là-dessus, ça se fait naturellement et par toutes les personnes qui m'entourent sans aucun souci, donc c'est bien. Et j'ai pas encore trop rencontré de gros couacs à ce niveau-là.
Ouais, bah tant mieux, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte du nombre de sites qui sont inutilisables parce que pas pensé pour avoir toutes les informations qu'il faut pour une personne qui aurait des difficultés de vue ou autre. Y avait une étude qui était sortie il y a pas très longtemps qui disait qu'une grosse majorité des sites internet étaient pensés pour les hommes. Alors, comme ça, quand on se dit penser pour les hommes, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'arrive pas à en avoir conscience, mais en réalité, on n'a pas la même façon entre hommes et femmes de voir les choses dans leur disposition, etc. Et que la plupart du temps, la navigation était plus intuitive pour un homme que pour une femme à cause de la façon dont étaient pensés et conçus les sites. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire sur ce genre de truc.
Alors là, c'est possible. J'ai jamais regardé réellement le biais sur la conception des sites ou des interfaces.
Malheureusement, en plus, on est tous les deux deux hommes. on va avoir du mal à voir en quoi c'est avantagé. Il faut vraiment qu'on se mette sur le sujet et qu'on nous le montre, à mon avis, pour qu'on puisse le voir, quoi.
Ouais. Ben, là, il s'agit simplement d'avoir dans ces équipes des femmes et ça vient. Et si on leur laisse la parole, oui, parce que parfois ça arrive que non, ça vient tout naturellement.
Ouais, ça revient à un truc dont on parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, c'est le fait que y a des niveaux d'importance de parole dans les boîtes et y a des paroles qui priment plus que d'autres. C'est moi qui disais ça tout à l'heure. Et toi, du coup, tu me parlais de la politique en entreprise, qui est un de tes combats, un peu.
C'est pas un combat, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai constaté dans des sociétés ou des startups. Alors, j'étais un peu naïf là-dessus, tout simplement parce que j'imagine, et venant de grands groupes, Telecom Italia ou Free auparavant, y avait de la politique, mais sur un groupe de 300 personnes, tu t'y attends un petit peu. Quand tu commences une start-up à 10, 20 ou 30, tu te dis « non, tout le monde a le même objectif, il n'y a pas de politique à ce niveau-là ». Eh bien, j'ai dû malheureusement prendre quelques conseils en externe et on m'a confirmé donc un coach aussi agile et d'entreprise, qui m'a confirmé que non, la politique dans une entreprise commence à 20, 25 personnes. Donc, il faut le savoir, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas en faire un combat. Il n'y a aucune raison de faire un combat là-dessus, mais il faut au moins le savoir en fond. Alors, un des exemples qui est évident et que j'ai déjà pratiqué en atelier avec des autres entreprises, pour leur donner, pour que ça soit assez simple, c'est de se dire, vous faites une réunion et vous en faites plusieurs, et il y a deux personnes, en fait, dans cette réunion qui se valident systématiquement leur projet. Alors, ça passe, vous ne le voyez pas obligatoirement, mais si vous commencez à vous dire « il faut que je fasse attention à quelques indicateurs », ce n'est pas une bonne chose. Ces deux personnes vont se valider leur projet. Donc, leurs projets, ils sont peut-être géniaux et c'est parfait. Simplement, à un moment donné, s'ils se valident sans arrêt leur projet, globalement, sans poser de questions ou autre, bah, vous allez perdre un cerveau dans la société. Et si vous avez une petite société et que vous perdez un cerveau parce qu'ils se valident sans critiquer les projets qu'ils avancent, bah vous perdez de la valeur dans l'entreprise. La critique est nécessaire sur les projets et d'en discuter, c'est une bonne chose. Maintenant, si la politique passe devant, ben, vous perdez en valeur, tout simplement.
Un des trucs qui était mis en avant dans le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, et là, je sais pour ceux qui m'écoutent régulièrement que j'en parle beaucoup en ce moment dans les derniers épisodes, mais c'est un livre vraiment marquant. Je ne sais pas si tu l'as lu d'ailleurs, Cyril.
Pas du tout.
Bah écoute, je te le conseille fortement. Très bon livre. Et il parle du système qui a été mis en place un peu pour éviter ça dans certaines entreprises Opal dont il parle dans son livre. C'est un système à validation à trois. C'est-à-dire que si toi, demain, tu es porteur d'un projet, d'une idée dans une entreprise, dans une de ces entreprises, tu vas devoir aller en parler à trois personnes différentes qui sont donc sur des équipes différentes et obtenir leur avis sur la question. Après, libre à toi de suivre leur avis ou pas, puisque en général, on considère, enfin, dans ces entreprises-là, ils considèrent que la responsabilité du porteur de projet est totale. Il devra lui-même en répondre auprès de ses collaborateurs qui sont tous au même niveau. Mais en tout cas, on lui demande de systématiquement aller parler à trois personnes pour avoir trois avis différents et obtenir des critiques, positives ou pas, sur ces projets. Donc c'est à ça que ça me faisait penser ce que tu exprimais là.
Alors ça, c'est essentiel et c'est de bon sens. Et même, alors je vais prendre un autre cas, c'est lorsque vous créez une startup et que vous avez une idée, parfois certains veulent la protéger et donc en parler le moins possible. Sauf que si vous faites ça, vous n'allez pas avoir de retour. Et donc, mon optique pour l'instant est de l'exposer et de se dire que la réalisation compte aussi et d'avoir des retours des différents acteurs, des différents clients ou futurs clients que vous allez avoir. Ça, c'est important pour construire votre idée et pas tout seul dans votre coin. Donc, exposer et avoir un retour des autres, c'est une bonne chose. Alors, il faut faire aussi attention. Dans les startups en particulier, vous avez très peu de niveaux de hiérarchie et l'expression ou les directions sont assez librement discutées. Simplement, il faut aussi comprendre, pour ceux qui vont travailler ou qui travaillent déjà dans les startups, que comme il y a un manque de filtre et un manque de hiérarchie, vous allez être informé en février d'un super projet qui a l'air génial, tout le monde est d'accord, tout le monde trouve ça absolument excellent, et en mars-avril, ben, on va l'arrêter ce projet. Donc là, il peut y avoir une déception de groupe, une non-compréhension, malgré les explications. Mmh. Et ça peut être aussi un problème, enfin, c'est un faux problème dans les startups, c'est que la structure ou les projets, ben, il n'y a pas le filtre hiérarchique dans les plus grands groupes, et c'est directement exprimé en réunion globale. Et donc, il faut savoir que c'est normal, et certains projets sont arrêtés, il faut poser les questions pourquoi, et il y a souvent de très bonnes raisons, et malheureusement, en tant que salarié, on ne les comprend pas toujours directement. C'est difficile à comprendre que le projet qui était génial il y a 2 mois, ben, on ne peut pas le faire aujourd'hui ou on ne peut pas le faire maintenant. Et donc ça, c'est un petit côté déceptif qu'il peut y avoir dans les startups. Il y a un petit peu le côté ascenseur émotionnel. Génial le projet, non, on l'arrête. Ah, mais pourquoi ? Voilà, donc il faut le savoir quand on va dans une startup aussi, qu'il y a des mouvements, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on doit mettre en pause. Donc ça, c'est important aussi. Et ça rejoint ton idée de se dire, on doit partager les éléments, donc envers les services, envers les éléments, mais il faut savoir que parfois, ça peut générer une petite frustration et il faut l'accepter.
Et comment tu communiques auprès des personnes là-dessus, comment tu leur transmets cette idée ?
Alors, de façon assez classique, on va faire des réunions, on transmet l'idée, on va faire des travaux sur des stories, c'est-à-dire une manière de résoudre la problématique posée au départ, et demander aux personnes dans cette réunion différentes solutions. Ensuite, on fait un kick-off ou des notes sur les différentes solutions en termes d'efficacité, en termes de difficulté pour les mettre en jeu. Et bah, évidemment, il y a des personnes qui vont proposer des solutions qui ont l'air géniales, mais qui vont être trop difficiles aujourd'hui à être mises en place et qui vont être votées négativement ou en tout cas pas suffisamment positivement par les autres, donc elles ne vont pas être conservées. Donc normalement, il y a un effet groupe et une compréhension du groupe dans un travail de réunion, mais ce n'est pas toujours évident. Quand on est vraiment attaché à une idée, et je peux le comprendre, ben on est vraiment déçu qu'elle n'ait pas été retenue. Surtout si, en plus, on sait qu'elle est bonne et que globalement, elle est bonne, cette idée. Le problème vient simplement parfois de la difficulté ou de la rentabilité de certaines idées sur des projets. Et ça, c'est très, très difficile à expliquer. Et il y a des limites à l'explication, donc on va dire dans 90% des cas, on peut l'expliquer, mais bien évidemment, sur une start-up ou des projets, vous en allez avoir 10, 20, 20 des idées. Et pour les sélectionner, bah, vous allez toujours faire des déçus, et il faut le savoir.
Ouais, mais ça me fait penser à un peu cette difficulté qu'on a, surtout en France, à accepter l'erreur ou l'échec. Comme tu me parlais d'un droit à l'erreur qui est une des valeurs que tu prônes, mais en France on a vraiment du mal avec ça, c'est-à-dire que un échec est systématiquement mal perçu et au lieu de s'en servir comme quelque chose qui nous aura appris et qui va nous permettre de progresser, on préfère soit le nier, soit insister jusqu'à ce que ça devienne une catastrophe, au lieu de se dire, bon, bah, ok, on a foiré, on se pose, on regarde un peu où on en est, et on fait le bilan et on voit ce qu'on peut en tirer. Je sais pas quelle est ta vision, toi, là-dessus.
Alors, en entreprise, ça porte un nom, c'est tout ce qui est post-mortem, c'est-à-dire se dire, oula, on a été à la fin, on a été jusqu'au bout, on voit si ça marche ou si ça marche pas, et on en tire des conclusions, et surtout, on va essayer de s'améliorer. Et il faut pas, si on consacre une réunion ou des échanges, il faut pas consacrer les trois quarts de la réunion à se dire, oui, on a fait l'erreur, etc., et analyser le pourquoi on a fait l'erreur. Il faut consacrer la majorité de la réunion pour le prochain projet, pour ne pas refaire l'erreur. Donc, il faut vraiment, non pas se concentrer sur l'erreur, mais se concentrer sur l'amélioration. Donc, ça, c'est important.
Exactement.
Et c'est difficile.
C'est un point hyper important que tu soulignes. La distinction, elle est hyper subtile hein, dans ce que tu viens de dire. Mais elle est là, quoi. C'est que il faut pas s'apitoyer sur son erreur. Il faut pas tourner en boucle dessus. Il faut vraiment se dire qu'est-ce que je peux en tirer ? En quoi je peux transformer cette erreur en apprentissage, en succès ? Qu'est-ce que je peux en faire, quoi ? C'est vraiment... c'est hyper clé, ce que je viens de dire. Je suis 100% d'accord avec toi, parce que... Et en plus, comme la distinction est si subtile, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Non, mais on a fait des réunions pour discuter de cette erreur, essayer de savoir pourquoi, comprendre comment on l'a fait. » Non ! Genre, c'est bien de comprendre, mais cherche plutôt à voir ce que tu peux mettre en place et apprendre de ça, et repartir là-dessus pour faire quelque chose d'encore meilleur, tu vois. Je sais pas si mon idée est claire, mais...
Oui. Alors, ça veut dire que il faut pas se fouetter sur une erreur, il faut pas l'analyser en profondeur. Il y a eu une erreur, on connaît à peu près les causes, on va les qualifier, on va leur donner un petit niveau de priorité, et à l'occasion, il faut faire quelque chose de simple pour la prochaine fois, c'est-à-dire, la chose la plus basique, c'est une checklist. Si imaginons que... Alors, je vais prendre un cas réel... qu'un développeur a fait une erreur en confondant la latitude et la longitude sur les positions des utilisateurs et qu'il a envoyé ça en production, la checklist est faites un petit contrôle sur vos cartes réelles pour voir que vous êtes bien au bon endroit. Tu vois, c'est des choses toutes bêtes comme ça. Mais l'impact derrière, il va être énorme au niveau de la production, au niveau des utilisateurs. Mais c'est quelque chose qui se corrige assez facilement. Donc si ça se corrige facilement, passer l'éponge et que corrigeons-le facilement et consacrons plutôt notre temps à ne pas la refaire plutôt qu'à s'apitoyer sur son sort et à regarder en arrière. Et puis fustiger quelqu'un en interne, ça, bizarrement, ça ne l'a jamais motivé pour travailler.
Et puis au contraire, ouais, et puis même ça le fait rentrer aussi dans la politique, c'est-à-dire la prochaine fois que ça risque d'arriver, il risque de vouloir cacher son erreur, de retenir l'information parce que il aura peur des conséquences que ça va donner, quoi.
Tout à fait, ouais.
Donc c'est quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte que la plus grosse source de pouvoir de la politique en entreprise, c'est l'information, surtout à notre époque. Et qu'en gros, retenir l'information, c'est contribuer au jeu politique et à ses conséquences, quoi. Et c'est souvent qui sont néfastes pour le bien de la boîte, quoi. Ouais.
Il y a beaucoup de choses à dire sur les sociétés. Et ce que je conseille réellement au départ, c'est de faire des lignes directrices, donc des valeurs exprimées correctement et avec des cas pour les sociétés. Et après, tout roule normalement. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Et il ne faut surtout pas hésiter à les rappeler sans arrêt en communication interne ou externe. Il ne faut jamais croire que les choses sont acquises, et parce que dans le temps, il faut retravailler les choses. Et ah oui, un petit détail très important. Vous allez me dire, je fixe mes valeurs maintenant de société, ma com interne et tout, c'est génial, mais ça veut dire que pendant les 10 ou 20 ans à venir, je ne les modifierai pas. Non, vous allez garder les mêmes valeurs, mais vous allez faire des petits appendum. C'est-à-dire, oui, alors, j'ai dit qu'on avait le droit à l'erreur. Maintenant, je ne sais pas... fumer en salle serveur ou en salle blanche, c'est pas une erreur, ça, c'est un vrai problème professionnel. Mmh. Voilà, donc il y a subtilité, voire même des gros subtilités.
C'est de l'inconscience.
Ouais.
Non, en effet. Et du coup, c'est vrai que je suppose que tout ça, de toute façon, ça t'est venu petit à petit à force d'expérience avec toutes tes boîtes. Comment. C'est une des questions que je voulais te poser. C'est vrai que tu enchaînes les créations et j'ai envie de dire les succès. Comment tu trouves cette créativité et d'où te vient principalement l'inspiration des boîtes que tu fais? Alors, on a vu qu'il y avait un point commun qui était la mise en relation. Mais si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Si c'est pas trop flou, ma question.
Je vois à peu près où tu veux en venir. Alors, le problème n'est pas un problème de créativité. Mon problème est de limiter ma créativité et de faire des choses qui soient fixées dans le réel et non pas un projet imaginaire qui ne sera viable que dans 10 ou 20 ans. Donc, ça, c'est le cas. Et c'est pour ça que de faire appel à des personnes externes et de tester continuellement sur le terrain, c'est une très, très bonne chose. Alors, pour donner une idée plus globale, c'est votre expérience personnelle qui doit être inclue dans votre société ou dans votre création de société. Si vous avez des problèmes de networking ou de gestion du networking, vous allez vous intéresser au sujet normalement. Normalement, vous rencontrez un problème, vous allez vouloir en apprendre un peu plus et faire quelques notes dessus. Et ces notes que vous allez faire sur un problème que vous avez ou que vous rencontrez à un moment donné, ça peut devenir un vrai sujet. Et si ce sujet, il est partagé avec d'autres personnes, là, vous pouvez vous dire que vous avez peut-être un produit, alors peut-être un petit produit, une méthode que vous pouvez partager ou éventuellement une société. Mais là, il faudra aussi le tester sur le terrain. Dans le cas de BePitch, toutes les interviews, je les ai fait à la main au début, je les ai fait avec des étudiants, j'ai fait les différents cas. Donc les différents cas, ça a été aussi bien de présenter mon propre projet, de rechercher des cofondateurs, ça a été de rechercher des investisseurs et je les ai testés sur le terrain. Ça veut dire que j'ai été voir des sociétés, je les ai coachés, je leur ai fait leurs vidéos, je les ai diffusées à la main. Est-ce que derrière, ils ont trouvé un cofondateur? Oui. Est-ce que dans la majorité des cas, ils ont trouvé un cofondateur? Ou est-ce que ça les a aidés au moins? Est-ce que ça leur a ouvert l'esprit? Est-ce qu'ils ont avancé dans leur projet? Donc comme la réponse a été oui sur plein de sujets, je me suis dit, c'est bon, je dois être à peu près dans la bonne situation. Maintenant, à chaque fois, je leur demande, qu'est-ce que vous voulez que j'améliore? je prends en compte les considérations. Alors, quand on prend en compte les considérations d'une personne, on ne va pas modifier le produit ou sa façon de penser. Mais quand il y a 5-6 personnes qui vous disent la même chose, bah, il faut modifier le produit, il n'y a pas photo. Donc,
évidemment.
Allez vers les autres avec l'idée que, par avance, vous ne savez pas. Ça a l'air très bête, mais gardez juste ce principe. C'est-à-dire, vous écoutez, vous notez, et après, vous prenez un peu de recul, et si vous avez plusieurs informations qui sont communes avec des retours de personnes, c'est que vous avez quelque chose soit à creuser, soit à modifier. Mais le retour des autres, et là, je vais encore parler en fait, de réseau, bah, il est hyper important. Le réseau, alors on parle de réseautage, de networking, etc., mais c'est très ancien au niveau de l'homme. L'homme fonctionne en communauté. On s'est défendu depuis X temps pour les animaux sauvages, préhistoire, etc. En communauté, c'est comme ça qu'on survit et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut travailler et avancer. Et ça, c'est génial et c'est naturel. Donc, c'est très agréable de le faire et c'est hyper profitable. Donc là...
Puis aujourd'hui, on a l'intelligence collective qui va aller nous permettre d'aller plus loin que des systèmes qui mettent en avant l'individu et son pouvoir sur d'autres choses. Je crois vraiment que les boîtes du futur seront celles qui sauront sublimer l'intelligence collective de leurs collaborateurs pour aller plus loin, quoi.
Alors, à l'inverse, je dirais, je ne veux pas de super-héros dans une société. Je veux des personnes qui soient capables de tirer avec elle d'autres personnes et de les faire grimper. Mais je ne veux pas de super-héros qui soient solitaires. Le Superman qui arrive dans une société qui arrive à tout faire, bah on va tout lui donner, les autres ne vont pas monter en compétences. L'idée, c'est vraiment d'être un groupe et de monter ensemble.
Je me bats contre ça en permanence. C'est vraiment quelque chose sur lequel je me bats. En plus, le nombre d'entreprises qui font ça, je pense que tu en as une idée très précise, mais c'est phénoménal. Moi, j'appelle ça des single point of failure, hein, tout simplement. En général, on utilise ce terme pour de la technique, mais en réalité, y en a tellement des humains, des points de... Je ne sais même pas comment ça se traduit en français, mais... des points de défaillance uniques, en gros, ou centralisés. Je pense que ça doit être ça, la traduction, à peu près. Si tu retires cette personne, il y a tout un système qui s'effondre et il y a une perte de connaissances phénoménale. Et trop souvent, il y a des entreprises qui se laissent tomber dans ce piège, mais qui est hyper dangereux, quoi. C'est donner trop d'importance à une personne et ça peut coûter très très cher. Ne serait-ce que ces dernières années, j'ai pu le voir via mon réseau des retours que j'entendais de certaines startups et tout ça. Quand elles arrivent en général à un recrutement à peu près à 50 personnes dans la boîte, de vouloir aller chercher des noms, des personnes avec un cursus énorme et tout ça, parce qu'en plus, souvent, ils ont fait une levée de fonds et que les investisseurs leur demandent d'aller prendre des personnes importantes, un nouveau CTO avec un poste clé, des trucs comme ça, qui vont arriver et qui, comme tu le dis, vont avoir un peu ce rôle de Superman et vont vouloir tout chambouler, tout changer et vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'entreprise parce que la personne va vouloir prendre un rôle central, écraser les autres et petit à petit tout relier à elle. Et en général, déjà, il va y avoir beaucoup de départs et ça, c'est un indicateur qui est très important à surveiller. Et derrière, on s'aperçoit en général que, du coup, si cette personne, demain, partait, elle peut foutre la boîte dans la merde. Désolé de l'expression, mais c'est... Voilà. Elle peut foutre la boîte dans la merde.
Alors, c'est pas
si t'as connu ce genre de choses.
Alors, je l'ai connu à plusieurs façons. C'est-à-dire que parfois, en fait, la personne n'a rien demandé et c'est la boîte qui lui fait aussi supporter énormément de charges au fur et à mesure et qui compte de plus en plus sur lui. Simplement, c'est un être humain. Et un être humain qui est un super-héros 24 heures sur 24 pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, c'est dur pour lui. Donc, c'est pénalisant aussi bien pour lui parce qu'il ne peut pas prendre de vacances. Il se sent toujours indispensable. Et on va parler, ou on va pas trop parler du burn-out, mais il existe, donc il faut faire attention à ça. L'idée aujourd'hui, dans les boîtes que j'aimerais, enfin l'idée que j'aimerais passer au niveau des sociétés, c'est doublonner vos compétences. Il ne doit pas y avoir une personne qui a une compétence unique. Il peut y avoir une personne qui est votre fer de lance, votre leader sur quelque chose, mais il doit obligatoirement être accompagné, secondé, et il doit être complété par d'autres personnes derrière pour pouvoir se reposer lui aussi de temps en temps. Et vous allez l'identifier rapidement. Si vous êtes inquiet qu'un salarié prenne 2 semaines de vacances ou 3 semaines et que vous n'allez pas réussir certains projets dans les temps ou pour des présentations, c'est que vous avez un problème de structure. Voilà, ça c'est un bon indicateur. Si un salarié vous manque pendant plusieurs semaines et qu'il ne peut pas prendre de vacances longues, il y a un problème qu'il faut résoudre. Alors ça ne se résout pas tout de suite, ça se résout sur plusieurs mois, mais il faut le prendre en compte. Et ça sera
mieux. Exactement.
Et puis, il ne faut pas oublier que, alors on voit que des jeux à la télé comme Koh-Lanta qui sont assez transparents, mais dès que vous avez un leader quelque part ou autre, vous allez avoir en fait une forme d'opposition. Il y a plein de gens qui vont vouloir le tuer aussi en interne. Et ça arrive.
J'aime beaucoup la comparaison.
Ah bah, une évidence. En ce moment, c'est... Alors, l'interview, je ne sais pas si elle passera avant la finale, mais il y a une finale d'un jeu dans quelques semaines. La semaine prochaine, je crois. Voilà. Regardez.
Alors moi, j'avoue que je ne regarde pas Koh-Lanta, mais ma femme, oui. Et c'est vrai que ouais, je vois même passer sur Twitter, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses apparemment. Hein. C'est trahison à tout va et tout ça. Donc c'est vrai que c'est socialement, c'est intéressant de regarder un peu ce qui se passe là-dedans.
Ce que vous avez dans les jeux, c'est un petit peu surdimensionné, mais vous avez aussi ça dans les entreprises. Donc, si vous mettez quelqu'un ou si vous félicitez dans une entreprise une personne unique, à un moment donné, les autres vont se retourner contre lui. Ils vont vouloir le dégager. Ils vont commencer à lui pourrir son travail. Et à un moment donné, vous allez devoir le dégager parce qu'il y a des problèmes ou des conflits en interne. Et d'un seul coup, bizarrement, la boîte va bien moins fonctionner et les autres vont revenir dans un état normal, ils n'auront pas eu le doublon d'informations ou autre. Et vous allez vraiment avoir des soucis sur la boîte. Alors l'indicateur, le premier indicateur à ce niveau-là, c'est le nombre de turnover. Si vous avez un turnover qui est au-dessus de 10 à 14% sur une boîte IT, il faut regarder. C'est pas encore obligatoirement problématique parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur ce secteur, mais c'est un premier indicateur.
Ouais. Et tu recommandes de faire quoi dans ce cas-là ?
Alors, parfois, il est un peu tard, malheureusement. Donc, il faut prévoir d'autres choses, se faire seconder par des boîtes externes pour avoir de nouveau un regard externe et restructurer correctement. En interne, vous aurez du mal à vous en sortir seul. Donc, avoir un mentor dans ces cas-là, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut quand même éviter d'en arriver là, savoir quels sont les éléments... porteurs dans une société, les faire accompagner correctement, faire des points réguliers avec eux et faire mettre en place une méthodologie sur le long terme. Diffuser la connaissance ou doublonner cette connaissance, il y a un coût, c'est un coût en temps parfois parce que la personne sera moins efficace, mais vous avez un avantage sur la sécurité et la structure de votre société qui est énorme. Et 2 cerveaux excellents dans une société, vous en aurez 3 ensuite, 4 ensuite, 5, etc. C'est génial. Ça veut dire que vous allez pouvoir déléguer de plus en plus, avoir d'autres projets auxquels vous n'aurez pas pensé. Ça, c'est un vrai bonheur. Donc, vous privez pas de ce bonheur. Faites-le. Identifiez les ressources, identifiez celles qui peuvent monter et accompagnez même globalement toutes vos ressources pour qu'elles grimpent en compétences. Il n'y a pas de compétences dans une société ou de personne qui ne peut pas acquérir de nouvelles compétences ou grimper. Ça n'existe pas. Et tout le monde peut apprendre à n'importe quel âge. Donc, faites-vous plaisir, allez-y, proposez. S'il y a des personnes qui refusent, c'est pas grave. Plus tard, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, dans un autre moment de leur vie, elles vont accepter d'autres missions, accepter d'apprendre d'autres éléments. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Une société, c'est la vie, ouais. Un organisme vivant. Je crois que c'est ce que tu me disais au début et je suis assez d'accord.
Ouais, c'est exactement ça. Surtout de voir comme un organisme vivant qui grandit et arrêter de voir ça comme un mécanisme robotique. Voilà quoi. On arrive bientôt à la fin de l'épisode, Cyril. Moi, je voulais te poser encore deux ou trois, peut-être trois questions. Si tu devais te donner un conseil au début de ta carrière, ce serait lequel aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience?
Alors, le premier conseil, c'est d'être moins naïf par rapport aux intentions des autres personnes dans une société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte qu'il peut y avoir de la politique dans l'entreprise. Il ne faut pas modifier son comportement ou autre, il faut juste le prendre en compte de temps en temps pour ne pas être surpris et pas, ne pas comprendre certaines actions à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, ça c'est un des premiers conseils. Sinon, le deuxième conseil, ce serait de prendre du repos de temps en temps. C'est nécessaire, on travaille mieux après avoir pris un peu de repos et de recul. Et ça, c'est essentiel. Le troisième conseil, j'en ai aucune idée. Là, tout de suite, je dirais avoir confiance en soi. Quand tu me dis au début de l'interview, c'est génial, tu as créé plusieurs entreprises ou autres, elles sont bien, elles sont connues. Quand tu es à l'intérieur ou quand je travaille, j'en ai absolument pas conscience de ça. Il n'y a pas une notion de prise de grosse tête ou d'embourgeoisement de l'entrepreneuriat ou autre. Moi, tout ce que je vois, c'est le futur, une nouvelle société, une nouvelle entreprise, de nouveaux défis. Et c'est génial, c'est ce qui me motive. Et je ne regarde pas tant que ça en arrière. C'est-à-dire que vu que je regarde en avant, c'est beaucoup plus simple pour moi d'être motivé et j'espère rester à peu près humble de temps en temps.
Je pense que tu l'es et c'est tout à fait louable de ta part parce que franchement, au vu de ton parcours, c'est remarquable et je pense qu'en effet, il y a beaucoup trop de prises de grosses têtes trop fréquentes qui peuvent arriver et c'est pas ton cas et franchement, c'est vraiment, vraiment louable.
Alors, ce que j'essaye aujourd'hui de faire, c'est d'aider certaines autres sociétés, parfois de les mettre en avant via les canaux et les vidéos que je diffuse. Pour ces sociétés, je les sélectionne un petit peu. C'est des vidéos gratuites que je leur fais. J'espère que ça les booste un petit peu ou que les échanges qu'on peut avoir parfois vont les aider à se structurer.
Bah écoute, j'espère qu'en tout cas, je pourrai te recevoir dans un de mes meet-up quand on aura droit de les reprendre. Pour justement peut-être partager cette expérience auprès de jeunes créateurs de produits. Et ça pourrait être intéressant d'avoir ça. Je voulais rebondir sur le deuxième point que tu disais, sur le fait de se reposer. C'est hyper important aujourd'hui de se reposer. Moi, je l'ai compris, à 24 ans, quand je suis tombé malade. Et c'est quelque chose qu'on néglige trop. Surtout qu'il y a une espèce de mode qui est de se vanter de faire des heures à rallonge, de se tuer à la tâche un peu. Je n'utilise pas cette expression à la légère parce qu'on ne se rend pas compte en fait, des conséquences que ça a sur le long terme, sur notre santé et sur notre mental. Ce n'est pas une bonne chose en fait, de cultiver la fatigue et de s'imaginer qu'on peut avoir l'esprit clair quand c'est le cas, quoi. Alors je sais qu'il y a des fois il y a des trucs qui vous donnent l'impression que vous êtes obligé de le faire, mais non quoi. Il faut vraiment se forcer et pour moi c'est beaucoup plus louable se forcer à se dire là il faut que j'apprenne à prendre du temps pour moi, à prendre du recul, à me poser et à me reposer. C'est hyper important. Donc je voulais rebondir là-dessus par rapport à ce que tu disais.
Alors, j'avoue que c'est un bon conseil que je me donnerais à mon moi d'il y a 20 ans, mais je vais aussi me le donner à mon moi de maintenant, à mon moi de plus tard, parce que je suis toujours pas, j'arrive toujours pas à m'accorder, entre guillemets, un repos complet ou une déconnexion complète. Donc, j'avoue, c'est encore un gros et énorme axe de progression que je dois faire.
Ouais, mais c'est pas facile.
Hein. J'ai arrêté la limite. En effet, je le sais. Et j'essaye de me mettre des indicateurs maintenant, mais c'est pas évident.
Ok. Deuxième question pour terminer. Est-ce que il y a des livres, des œuvres, des vidéos, des choses que tu recommanderais à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent créer quelque chose, qui veulent lancer un projet, une association, whatever. Est-ce qu'il y a des choses que tu recommanderais?
Alors, de toute façon, c'est les évidences. Sortez de votre cercle habituel, allez faire d'autres expériences. De mon côté, j'essaye de faire des sports différents et nouveaux que j'aurais jamais fait. Et j'essaye de cycler à peu près chaque an sur de nouveaux sports ou de nouvelles activités. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour tout ce qui est livre, même chose. Ne vous concentrez pas obligatoirement sur de la lecture qui soit orientée dans votre quête d'entreprise, de votre quête d'amélioration. Prenez de la lecture qui vous repose, de la lecture qui vous ouvre l'esprit. Alors, dans les livres, il y en a un quand même que j'aime bien, c'est « Trois amis en quête de sagesse ». C'est une discussion entre des amis qui vont philosopher un peu avec différents points de vue sur le monde d'aujourd'hui, les réactions et les interactions entre les personnes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez léger. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, il faut prendre du recul aussi dessus. On peut le lire assez facilement et c'est agréable et ça vous donne une petite ouverture d'esprit et la vision des autres est importante. Donc nourrissez votre esprit de cette vision d'autres personnes et ne soyez pas aussi exigeant avec vous-même parfois.
Ouais. C'est vrai, il faut prendre du plaisir dans la lecture aussi. À une époque, j'ai fait cette erreur d'enchaîner les bouquins de développement personnel et tout. Et au final, c'était devenu presque une corvée. Alors maintenant, je fais en fonction de mes envies, quoi. Je vais lire des bouquins de fiction quand j'en ai envie. Je vais lire des bouquins un peu plus sérieux sur le travail, sur tout ça, quand j'en ai envie aussi. Je vais pas hésiter à m'arrêter, je vais pas hésiter à changer et aussi à ouvrir mes horizons, comme tu le dis, à sortir un peu de ma zone de confort pour aller lire sur des sujets dont on ne parlerait pas forcément. Pour donner un exemple, les prochains bouquins que je vais lire vont tous être orientés un peu sur le racisme et tout ça. Et voilà, le but, c'est d'aller plus loin et de se remettre en question et d'apprendre au quotidien, quoi. Donc, je plus sois sur ce que tu dis.
Lisez des livres sur lesquels vous n'apprendrez rien, mais qui sont juste pour vous détendre.
C'est bien aussi. Exactement. Ouais, non, clairement. Écoute, Cyril, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter?
Alors, on a vu beaucoup, beaucoup de choses. Je dirais, essayez de profiter de la vie. Ne vous remettez pas sans arrêt en question sur vos choix ou autres. Vous avez le droit à l'erreur, ça c'est important. Et essayez ce que vous voulez sans une prise de risque extrême, un petit peu calculée quand même, mais essayez des choses et vous verrez si ça marche ou si ça marche pas. Dans mon cas, dans le cas des entreprises, là vous le voyez pas, on voit que le résultat final, mais il y a eu des pivots, il y a eu des modifications, il y a eu des erreurs. Donc les erreurs, on n'en parle pas obligatoirement dans les livres quand on fait un petit résumé de la carrière ou d'une personne ou ce genre de choses. On va parler des choses qu'il a réussi, mais pas de toutes les erreurs. Pourquoi ? Parce que les erreurs d'une personne, si on en parlait, c'était pas un livre qu'il faudrait faire, c'était 5 livres. Donc pour un livre où on va parler de la carrière et des réussites d'une personne, sachez que derrière, il y a 5 livres sur lesquels on pourrait parler de toutes les erreurs qu'il a faites. Donc ayez confiance en vous et c'est pas grave. Ouais.
Très très magnifique. Je vais rien à rajouter. Écoute, Cyril, je te remercie. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Je mettrai les liens vers BPitch dans la description du podcast, dans les notes du podcast, plus le livre que tu as recommandé. Et puis, je te dis à plus tard et bonne continuation.
Bah, merci beaucoup, Romain. Plaisir de t'écouter.
Bah, je t'en prie. Merci vraiment à toi d'être venu, c'était un plaisir.
Bonne journée, merci.
À plus, ciao.